podcast de Radio Vatican.
Dans les rues de Mossoul en Irak actuellement ou dans la ville d'Alep en Syrie lors de l'offensive du régime pour reprendre les quartiers est, les villes sont devenues le théâtre des conflits au détriment des civils. Selon un rapport du CICR publié ce mercredi 14 juin, les affrontements y ont fait 5 fois plus de morts civiles que sur d'autres champs de bataille. 70% des victimes ont été tuées à cause des guerres dans les zones urbaines. Dégâts sur les infrastructures de santé, accès à l'eau, impact psychologique sur les habitants, les conséquences sont nombreuses. Environ 17 millions d'Irakiens, de Syriens ou de Yéménites sont partis de chez eux. Krista Armstrong est porte-parole du CICR à Genève. Elle revient sur ce rapport.
Nous, on a fait cette étude par rapport aux 3 dernières années, donc début 2014 jusqu'à aujourd'hui. On a vu une vraie recrudescence des violences dans les villes. Quelque chose qu'on n'avait pas vu à cette échelle pendant des dizaines et des dizaines d'années, vraiment. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces villes, au Yémen, Irak et en Syrie, c'est vraiment les champs de bataille principaux. Et dans les villes, quand des offensives commencent dans ces villes, par rapport aux recherches qu'on a pu faire en Irak et en Syrie, dans 6 provinces dans les deux pays, on a vu que le taux de mortalité parmi les civils pouvait monter de 5 fois. Et ça, c'est juste un chiffre. Ça montre même pas la souffrance qu'il y a derrière. Mais c'est vraiment un phénomène aussi qui pousse les gens à devoir partir parce qu'ils n'ont plus l'infrastructure, les biens essentiels pour survivre. Ils n'ont plus la nourriture, ils ne peuvent plus dépendre d'eux-mêmes. Donc c'est aussi un facteur de migration. Et d'un autre côté, c'est des violences constantes auxquelles sont exposées ces populations civiles qui se trouvent vraiment piégées, si vous voulez, entre les différentes parties au conflit. Et on le voit à une échelle dans ces 3 pays qui est énorme. En 2010 et 2015, ces conflits représentaient à peu près la moitié de tous les décès liés à la guerre dans le monde. Donc c'est aussi, et nous on voit le lien très clair avec les violences qui ont lieu en zone urbaine et ce taux de mortalité qui est très haut parmi les civils, mais bien sûr il y a beaucoup plus que de juste les chiffres de mortalité.
À Alep ou encore Mossoul, des zones sont entièrement détruites et pourtant certains habitants y vivent encore pour Mossoul et y ont vécu pour Alep lors des affrontements. Comment font-ils au quotidien ces habitants ?
Bien tout à fait, le rapport pour nous met les gens vraiment au centre. Donc les témoignages des personnes qui ont survécu à ces violences, qui les ont vécues, il y a une résilience qui est absolument énorme que nos collègues voient de manière quotidienne. Mais c'est vrai que voilà, Alep, même si on est à un point où les violences sont passées, il y a tellement de choses à reconstruire, il y a tellement de besoins qui demeurent, il y a des zones de la ville qui sont trop détruites où les gens n'habitent pas. Mais leurs histoires sont, des fois ils se sont déplacés pendant des courtes périodes, des fois ils ont fait des choix très difficiles de est-ce que c'est plus sûr de rester chez moi et d'être exposé aux violences par les parties ici, ou est-ce que je prends le risque de quitter la maison, de prendre un chemin qui serait très périlleux et aussi de s'exposer plus aux armes explosives, par exemple, ou aux violences pour arriver à un lieu sûr. Donc après, c'est la sécurité d'un côté. Il y a des impacts émotionnels importants. Il y a un traumatisme qui est important après, qui va aussi impacter sur les gens, surtout parce que ces violences durent parfois des mois ou des années. Après, il y a des choses simples. Comment est-ce qu'on se nourrit? Comment est-ce qu'on a de l'eau qui est propre? Comment est-ce qu'on a accès à des hôpitaux? Ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est un besoin énorme. Par exemple, au Yémen, on voit beaucoup de personnes qui n'ont plus simplement accès à des soins vitaux pour survivre. Les personnes qui n'ont plus accès à l'insuline, par exemple, qui en ont besoin pour survivre. Et donc tous ces besoins se combinent pour avoir vraiment des impacts très dramatiques sur les populations civiles et de manière très alarmante.
Oui, vous nous parlez du coup des infrastructures, les hôpitaux, l'approvisionnement en eau. Les conséquences de ces guerres en ville sont terribles justement pour ces infrastructures.
Ce qu'on voit, c'est la façon aussi dont ces conflits se passent dans ces zones. Ces infrastructures qui sont très complexes, donc tout est lié. Dans un village, on est moins dépendant d'une infrastructure qui est complexe. Mais dans une ville, tout est lié. L'électricité, l'eau, il y a plus de services essentiels, mais ils sont aussi beaucoup plus vulnérables dans un sens à ces conflits, surtout quand le terrain de conflit ne respecte pas les infrastructures essentielles. Donc c'est la responsabilité des parties au conflit, des groupes armés, des forces armées en présence, bien sûr, de distinguer à tout moment entre les infrastructures civiles et les objectifs qui sont militaires. Mais là, on voit une confusion totale et un non-respect, bien sûr, d'infrastructures sur lesquelles les gens dépendent vraiment pour survivre. Et vraiment l'accès à l'eau, c'est quelque chose auquel on ne pense peut-être pas, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel, que si les gens sont privés de ça, ils sont forcés de se déplacer. Donc le CICR, c'est vrai qu'on travaille, par exemple à Alep, on avait établi tout un système de forage pour que les gens aient une alternative, mais ce n'est pas une solution à long terme et ça ne résout pas les besoins des personnes pendant ces conflits.
Alors, il y a plusieurs témoignages très durs dans ce rapport de témoins, d'habitants en Irak, en Syrie, au Yémen. Est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement marqué ?
De manière quotidienne, enfin, on a discuté beaucoup avec nos collègues qui les ont récoltés. Il y a beaucoup de témoignages, c'est pas seulement dans ces villes, on a choisi ces villes parce que c'est encore des souffrances qui demeurent très courantes, qui continuent, mais il y a aussi des villes comme Homs, on a récolté des témoignages, des descriptions d'autres zones aussi, qui sont aussi comme Taiz, qui sont des villes assiégées. Je pense que chaque histoire, on ne peut pas comparer nécessairement les souffrances, mais par exemple, quelle que soit la personne, le père à Alep qui a perdu son fils parce qu'un mortier est tombé sur sa maison, que ce soit la veuve à Taiz qui a perdu son mari, qui allait chercher justement de la nourriture, des biens essentiels et qui a été tuée par un sniper en route et qui après n'a pas pu survivre toute seule, elle a dû rentrer chez ses parents avec sa jeune fille. Toutes ces histoires sont... Chacun a un parcours important. Après, on a aussi fait des entretiens avec des réfugiés qui se sont trouvés. D'où vient le titre, en fait, « J'ai vu ma ville mourir », ça vient d'un jeune homme de 20 et quelques années qui était à Beyrouth et qui s'est senti qu'il y avait eu tellement de violence et qu'il y avait vraiment, il sentait que sa ville était morte, que lui, il n'arriverait plus à récupérer. Donc, c'est un impact aussi pour des personnes qui quittent ces villes. Ils ont quand même toute cette lourdeur de l'expérience qu'ils ont vécue. Mais ce qu'on voit aussi de manière fondamentale, c'est que même si les gens partent ou que les gens restent, ils veulent reconstruire leur ville. C'était des villes qui étaient très riches, c'était des villes culturellement diversifiées par le passé, elles ont vécu à travers d'énormes violences, mais on voit quand même une détermination parmi les gens de vouloir, même à Mossoul, deux jeunes hommes, deux frères, ils étaient partis pendant un mois et demi pour fuir les violences, ils sont revenus chez eux, la maison est complètement détruite, mais en même temps, ils n'ont pas le choix, ils vont reconstruire, ça va leur prendre du temps. Mais pour eux, ils nous disent, c'est notre Mossoul, c'est notre Mossoul, c'est notre ville, on n'a nulle part ailleurs où on veut aller. Donc on voit aussi cette forme de résilience, et justement c'est pour ça qu'on voulait faire sortir ce rapport, c'est montrer le quotidien de ces personnes et la façon dont c'est inacceptable. On voit des images très dramatiques à la télévision, mais le quotidien vraiment et le long terme de leur expérience et les besoins qu'ils auront aussi après, une fois que les violences sont passées, seront absolument énormes, non seulement au niveau individuel, bien sûr, mais aussi au niveau des communautés pour se reconstruire. C'est pas juste reconstruire des bâtiments, c'est aussi reconstruire des sociétés, des communautés, et d'où l'expérience qu'on a aussi apportée en faisant un relief avec le Liban et l'expérience de Beyrouth. C'est 25 ans plus tard, il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de tensions encore qui demeurent, qui n'ont pas été résolues. Et ces choses-là doivent absolument être adressées une fois qu'une communauté, enfin, une fois qu'une ville, une fois que la violence est passée, qu'elle tente de se reconstruire.
Aujourd'hui, il est dur d'imaginer les villes comme Alep, Mossoul ou Taiz autrement que par les images de destruction et d'affrontement. Comment vivaient ces villes avant la guerre ?
Alep, c'était le centre économique du pays. C'était la Syrie, bien sûr, c'était un pays avant la guerre qui était une des plus développées de la sous-région. Et Alep, c'était vraiment le centre industriel, le centre économique. C'était la deuxième plus grande ville du pays, mais qui était au niveau de sa population, était la plus grande. Donc il y avait toute une économie. Et c'est vrai que la guerre a vraiment ravagé ça. On voit quand même maintenant, 6 mois après que les conflits ne sont plus au centre de la ville, même si l'Ouest reste touché quand même par des... Il y a encore des violences qui rentrent, si vous voulez, qui touchent les populations dans les zones limitrophes. On voit quand même une reconstruction. Les marchés ont repris. Ça commence doucement, mais il y a tout un travail à faire aussi pour reconstruire ce que c'était avant. Mossoul, par le passé, c'était une ville qui était un centre... il y avait la deuxième université du pays qui était là. C'était quand il y avait une grande mixité, mais qui, quand même, depuis des années, pas juste ces dernières années, mais aussi même depuis la guerre de 2003, enfin, il y avait quand même beaucoup de populations qui se sont déplacées. Donc, il y a cette mixité qui s'est fragilisée peu à peu, mais qui était vraiment importante avant. Et Taiz, c'était aussi un centre, c'était le centre de production de café, par exemple. C'était une ville qui économiquement marchait très bien, et là, on la voit réduite à une certaine dépendance qui est qui restent de manière partielle assiégées et qui reflètent aussi le reste des villes du pays du Yémen où les importations ne sont pas suffisantes et qui est très touché économiquement, mais où les impacts sur les populations en cause de l'effet cumulé de l'impact économique et des violences qui ne cesse de s'empirer, qui se combine maintenant par exemple au Yémen avec ces maladies qui ressortent, tout fragilise ces pays dans le court terme, mais bien sûr dans le long terme, parce que tout cela sera reconstruit après.
Alors dans ces conflits, il y a donc là aussi la complexité de ces groupes qui s'affrontent, et puis aussi donc ces combats à extrême proximité. C'est à Mossoul, je crois, où le rapport mentionne des combats où un des combattants est dans la cuisine alors que l'autre est dans le salon avec la famille qui vit juste au-dessus. Quelles sont les recommandations du CICR et comment vous pouvez peut-être, comment votre voix peut porter alors que ces conflits sont justement extrêmement complexes?
C'est vrai que ces violences, même si elles prennent différentes formes, Mossoul comme exemple vous disiez, c'est vraiment les gens sont imbriqués entre les groupes armés et les forces armées. Et dans ce que nous on recommande, enfin c'est pas nécessairement nouveau d'un côté, parce qu'on répète souvent qu'il faut respecter le droit international humanitaire, mais fondamentalement, si on viole systématiquement le droit international humanitaire, tout le monde en souffre. Parce que si on reprend une ville qui est complètement détruite, où on a exposé la population à des souffrances énormes, est-ce que c'est vraiment une victoire à la fin? Et il faut vraiment que les combattants de toutes parts se rendent compte de leurs actions et de l'impact qu'ils ont sur les personnes et les communautés que vraiment, en fait, elles tentent de gouverner parce qu'elles veulent reprendre le pouvoir dans ces zones-là. Donc pour certains aussi, c'est des villes qui leur appartiennent. Les gens viennent, les combattants viennent de ces villes et donc c'est leur famille, c'est leur communauté à eux qui sont en train d'affecter à ce point-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment aussi ramener par ce rapport, que ce soit aussi de mettre un peu un miroir en face à leur responsabilité et au futur qu'ils créent. D'une autre partie, donc c'est les combattants qui sont directement impliqués, mais aussi les États qui soutiennent les groupes armés ou les forces armées qui sont en présence, ils jouent un rôle qui est absolument primordial aussi en termes d'assurer le respect du droit. Et sans soutenir, sans assurer qu'il y a ce respect justement en place et qu'il y a plus d'efforts qui est pris. On mentionnait tout à l'heure l'impact sur les infrastructures essentielles et aussi, je voulais rajouter à ça aussi, la protection des travailleurs essentiels de la santé, ceux qui aussi font les réparations, les ingénieurs des systèmes électriques et aussi des agences humanitaires. Ça, c'est absolument primordial aussi pour assurer que les communautés et l'assistance dont elles ont besoin puissent avoir accès aussi à des systèmes s'ils sont touchés et s'ils doivent être réparés, que les gens qui puissent les réparer puissent avoir accès rapidement, mais aussi que les médecins, que les aides-soignants et ainsi de suite se sentent en sécurité pour continuer à travailler dans les hôpitaux, dans les centres de santé et vraiment venir en secours aux personnes qui sont touchées. Donc ça, c'est absolument essentiel aussi. Après, il y a aussi, on voit une vraie migration. Il y a 17 millions de personnes qui ont été déplacées à cause des violences. La grande majorité restent dans leur pays, mais une grande partie aussi ont dû aller à l'étranger et sont réfugiés aujourd'hui. Et il faut absolument que d'un côté, les déplacés soient aidés, qu'ils soient dans leur pays ou à l'étranger, et qu'au niveau de la communauté internationale doit jouer un rôle important à cet égard, dans ce respect, et pour assurer aussi de soutenir les réfugiés tant qu'ils ont besoin de protection et d'assistance. Et bien sûr, finalement, comme on parlait tout à l'heure, mais aussi l'importance de regarder dès que ces violences se terminent, que le travail de reconstruction sociale, que le soutien envers les communautés, que tout soit aussi mis en place le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas un cycle qui se répète et que les clivages entre les communautés puissent être adressés assez vite. Parce que on voit les impacts ici ne datent pas d'hier, elles auront un impact énorme au-delà des frontières de ces pays et au-delà de la région même. Et c'est important aussi que ça se soit pris en compte dès maintenant.
Des propos recueillis par Sarah Bakaloglou.